de réaliser que ensemble nous formons une famille, la famille de Dieu. Et notre bonheur, c'est de penser aussi qu'un jour nous serons dans la maison du Père et que nous nous retrouverons. Et tout notre désir, c'est que personne ne manque. Et c'est une chose extraordinaire de penser qu'en un instant, tout peut se réaliser. Il y a eu un moment où ce libérateur qui avait été promis depuis des siècles, dans ce moment est arrivé, et Jésus est né à Bethléem. Nous sommes dans l'ère dite chrétienne à cause de Jésus, parce qu'il y a eu l'événement Jésus. Mais ce Jésus crucifié n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et il a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Il n'a pas dit quand. Il a souligné qu'on ne savait ni le jour ni l'heure, parce que ce sera pour le monde pas le même jour, suivant où nous habitons. Ce sera pas la même heure à cause du décalage horaire, de sorte que il ne voulait pas dire le jour et l'heure. Seul le Père le connaît. Mais ce sera le même moment. Et ce qui arrivera quand il reviendra en gloire, nous aurons déjà été avec lui dans le ciel. Et c'est ça qui est bouleversant. Car quand il revient pour le monde, pour établir son règne, il a les siens avec lui, qui ont déjà passé un temps avec lui dans la gloire, par l'enlèvement des croyants, qu'il doit précéder son retour en gloire. Et quand le Seigneur revient en gloire, nous sommes avec lui. Et il nous montrera au monde. Tous les croyants seront vus à ce moment-là. Tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Mais quand il revient pour enlever les siens, tout œil ne le voit pas, ce sont seulement ceux qui ont cru. Alors, l'ayant vu des yeux de la foi, en un instant, ils auront été transformés, nous aurons tous été transformés à son image. Fini les épreuves, fini la présence du péché, entièrement délivré, que ce sera beau. Quel événement! Et cet événement, croyez-le, il est proche. Sommes-nous prêts pour ce départ? Nous ne partirons pas du Cap Canaveral, parce que nous n'irions pas très loin. On resterait à flotter dans les cieux, mais le Seigneur, lui, il va nous conduire à la maison du Père. Et c'est dans la maison du Père que nous aurons ce banquet des noces de l'agneau. Et nous reviendrons avec lui. Dieu notre Père, nous voudrions en effet nous réjouir de ce qu'il y a un événement qui va se produire et qui va parler au monde, qui va réveiller les consciences. Oh, nous voulons te demander que nous soyons de ceux qui reviendront avec toi. Et non pas de ceux qui devront te voir dans toute ta gloire, mais sans être sauvé, pour s'en aller dans les peines éternelles. Seigneur, parle à nos cœurs et donne-nous d'aimer ta parole et de la croire, car ta parole est la vérité. Bénis-nous dans cette fin de journée et conduis-nous par ton esprit en Jésus-Christ. Amen. Mes amis, hier soir, nous avons répondu à trois questions au sujet de la lettre que Paul a écrite à Tite et qui est le grand sujet, le grand thème de ce camp. Ces questions étaient celles-ci. Qui était Paul qui a écrit la lettre, une de ces 13 lettres que nous avons dans le Nouveau Testament? Deuxième question, qui était Tite? Et nous espérons qu'il n'est plus un inconnu pour vous. Et la troisième question, qui étaient les Crétois? Et nous avons vu que ces Crétois n'étaient pas des gens très intéressant, puisque un de leurs propres philosophes disait d'eux qu'ils étaient tous des menteurs. Ce matin, nous avons vu que Paul avait laissé Tite dans cette île de Crète pour qu'il établisse ce qu'il appelle des anciens, ou évêque, d'un mot grec, presbyteros et episkopos, qui veut dire gardien, surveillant, protecteur. Voilà le sens de ce mot ancien. Et au chapitre premier, nous avons vu quels devaient être les caractères d'un ancien. Alors, ce soir, nous allons nous poser cette question. Y a-t-il dans l'Ancien Testament des exemples de ce que pouvait être un ancien? Je vous invite à lire au chapitre 18 de l'Exode, pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament quelques textes qui pourraient nous aider à comprendre ce qu'est un ancien? Au chapitre 18, de l'Exode, vous avez vos Bibles, et c'est important de les avoir. Nous lisons ceci. Jéthro, sacrificateur de Madian. Qu'est-ce qu'il était, Jéthro? Beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, à savoir que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait laissé partir, ainsi que ses deux fils. L'un se nommait Gershom, car il avait dit « Je suis un immigrant dans un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Vous voyez que quand on nommait un enfant, c'était toujours en rapport avec certaines circonstances qu'on avait vécues. Jéthro, verset 5, beau-père de Moïse, avec les fils de la femme de Moïse, vint vers Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu, qui était Horeb, où il avait reçu la loi. Il dit à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme, accompagnée de ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l'Éternel les avait délivrés. Et qu'est-ce qu'il a dû raconter? Quelle était une de ces grandes délivrances? Comment ils avaient traversé quoi? La mer Rouge. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, et cela alors qu'on agissait délibérément contre Israël. Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Écoutez bien maintenant, parce qu'on arrive sur cette question des anciens. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi ?» depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, « Mais c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi, et je sers d'arbitre entre les deux parties, et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais là est très bien. » Non, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur. Régnant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps qu'il porte devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Cette destination, c'était le pays d'Israël. Qu'a fait Moïse? Eh bien, verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps et portait devant Moïse les affaires difficiles et jugeait eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père et il s'en alla dans son pays. Je pense que vous avez déjà discerné un rapprochement avec ce que nous avons lu au sujet de Tite. Mais vous direz, mais ça c'est le beau-père de Moïse qui avait dit cela. Est-ce que vraiment Dieu pensait de cette manière? Alors, je vous demande de lire au chapitre 1er du Deutéronome. Quand Moïse était à la veille d'entrer dans le pays que Dieu avait promis, il s'est arrêté dans les plaines de Moab et il a rappelé à tout Israël certaines expériences. Et nous lisons au chapitre 1er, au verset 9e, du chapitre 1er du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Dans ce temps-là, donc quand ils étaient à la veille d'entrer dans le pays, je vous ai parlé en ces termes. Je ne puis pas à moi seul vous porter. Donc son beau-père avait vu juste. Quelqu'un qui veut être seul à diriger tout, il ne peut pas tenir. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse, comme il vous l'a dit. Comment porterai-je à moi seul la charge et le fardeau de vos contestations? Quand on a à la tête d'une communauté ou d'une église un homme qui veut tout faire, qui pense qu'il est seul à faire tout, eh bien, ça ne peut pas durer. Prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Mais qui lui avait proposé de faire cela? C'était son beau-père. Et il avait admis que son beau-père avait raison. Et il prenait la chose comme étant un conseil qui venait de Dieu. Verset 15. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, je les ai mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10 et des officiers dans vos tribus. J'ai donné dans ce temps-là cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Et lorsqu'une cause sera trop difficile pour vous, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous ai prescrit dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Ainsi, vous le voyez, dans l'Ancien Testament, on a déjà une idée de ce que pouvaient être les anciens qui nous occupent ces jours dans l'épître de Tite. Maintenant, je voudrais vous conduire dans le Nouveau Testament, de nouveau, au livre des Actes, au chapitre 20e. L'apôtre Paul, qui avait pu vivre 3 ans dans la ville d'Éphèse, y avait envoyé Timothée pour que lui aussi établisse dans cette ville d'Éphèse des anciens. Et étant de passage proche d'Éphèse, Paul ne pouvant pas s'arrêter à Éphèse, au chapitre 20 des Actes, il a fait venir les anciens de l'Église, ceux qui avaient été nommés et qui étaient responsables, qui étaient au fond les surveillants des croyants, des assemblées. Il les a fait venir à Milet, qui était une ville proche d'Éphèse. Vous avez cela au chapitre 20 des Actes. Vous savez, mes amis, ce n'est pas mes pensées que je veux que vous ayez, mais que vous ayez une connaissance de la parole. Et c'est pourquoi je vous lis au chapitre 20 ce que Paul a dit aux anciens d'Éphèse. Vous voyez, au verset 17e. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs, quoi d'abord ? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse, tristement, avec joie, ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant quoi ? Le royaume de Dieu. Nous avons été un peu troublés ce soir, mais nous reprendrons pour les enfants demain, Dieu voulant, le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. C'est pourquoi, verset 26, j'atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc ancien, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, oui, il avait été 3 ans là, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul a travaillé pour gagner sa vie. En tout temps, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Dans quel évangile est-ce que ça se trouve, ce verset? Ça ne se trouve pas dans l'évangile. Exactement. Pour quelle raison? Parce que Jean dit que si on avait dû mettre toutes les paroles de Jésus ensemble, le monde entier ne pourrait pas contenir tout ce qu'il a dit. C'est une des paroles que le Seigneur a dit, mais qui ne se trouve pas dans l'Évangile. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça vaut la peine de souligner hein, ce verset. Car, cela dit, Paul se met à genoux pour prier avec eux tous. Voyez-vous, se mettre à genoux, c'est quelque chose qui nous vient tout à coup. Et bien Paul, tout d'un coup, après avoir dit toutes ces choses, il a senti le besoin de se mettre à genoux. Puis là, il a prié avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Eh bien, voilà encore un chapitre qui nous donne une idée de ce qu'étaient les anciens. Et maintenant, ce que je voudrais vous inviter à faire, si vous avez du temps, c'est de méditer vous-même dans l'Ancien Testament sur la vie des hommes de Dieu que vous connaissez, dont vous connaissez les noms dans l'Ancien Testament. Et là, vous découvrirez ceux qui ont eu vraiment le caractère d'anciens. Je vous cite simplement Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont eu des manquements, ils ont eu des fautes, mais leur vie était tout un témoignage. À un tel point que Abraham, malgré ses faiblesses, a été l'homme qui a obéi à la voix de Dieu et qui a quitté son pays, sa parenté, pour s'en aller au pays que le Seigneur lui montrerait. Et quand on médite sur la vie d'Abraham, eh bien, on trouve, par exemple, en lui, un homme qui a su repousser l'argent. J'ai dit que bien des serviteurs ne font que demander de l'argent. Mais quand on est dépendant du Seigneur, il y a de l'argent que l'on peut refuser. Et nous avons lu dans Tite que nous ne devions pas, quand on est ancien, désirer un gain honteux. Dans la vie d'Abraham, je ne vais pas allonger, mais je voudrais seulement que vous puissiez méditer là-dessus. Nous voyons Abraham qui avait un neveu qui s'appelait comment ? Lot. Et Lot avait choisi pour lui le pays qui lui paraissait le plus favorable. Et puis voilà qu'un jour, Abraham apprend que le roi de Sodome avait envahi le pays où était Abraham, où était Lot, et qu'il avait emmené Lot et tous les siens. Alors, Abraham aurait pu se dire, bien, il a choisi, tant pis pour lui. Non. Dès que Abraham apprend la chose, il prend avec lui quelques amis et il s'en va pour délivrer Lot. Je lis dans le chapitre 14 de la Genèse. Au verset 17, les vainqueurs donc de Sodome prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, c'était son neveu réellement, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome partit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre ses mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Est-ce qu'il avait le droit de dire ça? Est-ce qu'il avait le droit de prendre ça, Abraham? Bien sûr, hein, puisqu'il était vainqueur. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Oh, ce que j'aime cette parole. Rien pour moi. Seulement ce ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eskol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Mais pour lui, Abraham a dit rien pour moi. Parce que cela aurait été ce qui est appelé chez Tite un gain honteux. Voulez-vous savoir ce que c'est un gain honteux, hein? Donc un ancien ne doit rien à faire avec cela. Eh bien voilà, l'exemple d'Abraham vous donne l'exemple d'une vie qui ne prend pas un gain honteux. Et vous pouvez prendre d'autres hommes et les étudier ainsi, parce que je dirais que la vie des hommes de Dieu, elle illustre leur doctrine. Notre doctrine doit être illustrée par notre vie. On doit être conséquent. Je prends maintenant un autre exemple de gain honteux, et c'est avec l'apôtre Pierre que nous allons terminer et voir comment Pierre a su refuser aussi, dans une certaine circonstance, un gain honteux, puisque un ancien ne doit pas servir avec un gain honteux. Dans le chapitre 8 des Actes, Actes des Apôtres, c'est toujours pour reconnaître un des caractères d'un ancien. Vous savez que Philippe avait annoncé l'évangile en Samarie. Chapitre 8 des Actes. Je lis depuis le verset 5. Philippe descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachèrent à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, et qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Méfiez-vous de ceux qui se croient grands. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la Grande. C'est ce qu'on pourrait dire presque de Toronto. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et j'ai la joie de vous dire que dans cette semaine, nous aurons en tout cas deux baptêmes au lac dans quelques jours, probablement jeudi soir au coucher du soleil. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lisez bien cela. Lorsque Simon, vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi. » Vous avez vu que dans Tite, il est dit qu'il fallait parler sévèrement à ces gens-là, hein, qui ne marchaient pas droit et qui ne pouvaient pas être anciens. « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem et évangélisèrent plusieurs villes des Samaritains. Eh bien, voilà deux exemples. L'exemple d'Abraham, qui s'est repoussé un gain honteux, et puis l'apôtre Pierre, qui fait de même en Samarie au sujet de Simon le magicien. Ainsi, si vous examinez, je le répète, la vie des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, vous verrez en quoi vous pouvez les suivre. Et Abraham en particulier nous donne les traces de la foi que nous pouvons discerner et suivre. Dans nos relations avec notre prochain, nous dirons comme lui a dit à son neveu Lot, « Toi d'abord, hein, laissons choisir les autres. Ce n'est pas moi qui choisis pour moi. Toi d'abord, dans nos relations avec le monde, il nous laisse une autre trace. Rien pour moi. Rien pour moi. Nous ne voulons rien de la part du monde. C'est pourquoi nous n'aimons pas faire des collectes où le monde donnerait de l'argent. Nous nous confions en Dieu seul qui peut pourvoir à tous nos besoins. Et puis une troisième trace qu'Abraham nous laisse, quand le Seigneur lui a demandé son Isaac, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Tout pour Dieu. Toi d'abord dans les relations avec le prochain, rien pour moi dans les relations avec le monde, tout pour Dieu, alors nous aurons sa bénédiction. Dieu notre Père, nous avons écouté ta parole ensemble et nous voulons maintenant croire que par ton esprit, tu vas permettre qu'elle agisse en nous, afin que notre doctrine soit vraiment notre vie, et notre vie soit vraiment la vraie doctrine, et que le monde sache que ce sont des paroles certaines et véritables, que l'on peut croire parce que tu es le Dieu qui ne saurait mentir, et que l'exemple de Jésus soit toujours devant nos yeux pour l'honneur et la gloire de ton nom.